Et notre invitée ce matin dans le 8:30, Sophie Vaginéry-Court, bonjour.
Bonjour.
Députée Union des droites des Alpes-de-Haute-Provence, merci de m'accueillir ce matin du côté de votre permanence parlementaire à Barcelonnette. Permanence parlementaire aussi que vous avez ouverte à Sisteron.
Absolument.
C'est important d'être au plus près de la population quand on est une élue de Paris maintenant.
Alors c'est fondamental de garder les pieds sur le territoire et l'écoute de la population justement pour porter les préoccupations à Paris. C'est très important.
Elle vous dit quoi cette population aujourd'hui? Parce que nous aussi on l'entend, on l'écoute et ce qu'elle nous dit c'est Paris, ça ne bouge pas, ça ne bouge plus. Ça se passe comme ça à l'Assemblée nationale, on est dans un état de paralysie, on y reviendra bien sûr, mais on est dans un état de paralysie aujourd'hui.
Alors, paralysie politique, certainement, paralysie des idées aussi. Par contre, on travaille beaucoup à l'Assemblée nationale et on est sur un blocage politique, en fait. Aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions pour relancer ce dialogue qui est constructif entre une vraie gauche et une vraie droite. Et aujourd'hui, on est effectivement sur un immobilisme quasiment total, puisque de temps en temps, c'est le fameux en même temps où finalement, on prend pas de décision.
Ouais, aujourd'hui, la France à retrouver un bipartisme, ce ni gauche ni droite, c'est fini.
J'espère, parce qu'on a besoin de cette confrontation des valeurs de gauche et de droite pour construire et pour trouver des solutions aux problèmes des Français aujourd'hui.
Parlons de cette motion de censure. Aujourd'hui, la position de l'Union des droites est très claire. Ce projet de loi de finances tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est non.
Alors absolument, on attend les résultats de la CMP où il va y avoir quelques arbitrages à la marge, mais les 35 milliards de recettes supplémentaires qu'on fait peser sur les entreprises aujourd'hui sont inacceptables pour le groupe UDR. C'est la raison pour laquelle on avait déjà censuré, on avait été déjà jusqu'à la censure avec le gouvernement Barnier. Il faut s'apercevoir que ces 35 milliards de recettes supplémentaires, c'est trois fois les Jeux Olympiques de Paris qu'on met sur le budget de la France pour 2025. C'est insoutenable et c'est très préoccupant pour l'économie française.
Très préoccupant aussi pour les collectivités. Alors au départ, le gouvernement parlait d'un effort de 5 milliards d'euros. Là maintenant, ce serait 2 milliards 200 millions d'euros, sauf que les collectivités sont quand même prises à la gorge aujourd'hui.
Oui, c'est tout le système qui se grippe. Hein. Là, on est sur un engagement de la dette aujourd'hui qui devient vertigineux avec l'augmentation du taux de la dette. Hein. On nous fait payer, les marchés financiers ont augmenté les intérêts de la dette. Donc, on a un effet ciseau où il faut trouver des recettes fiscales pour payer ces fameux intérêts de la dette. Et en même temps, on a une diminution des services publics, ce que ne comprennent pas les Français, puisqu'il faut trouver l'argent pour payer les emprunts qu'on fait pour faire tourner l'État. Oui.
C'est compliqué à expliquer à la population aujourd'hui qu'il va falloir quand même contribuer. On est obligé de contribuer à ce déficit aujourd'hui.
Oui, il faut que la contribution, malheureusement, on est face à un principe de réalité de toutes les façons. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ça pèse. On est arrivé à un plafond pour ce qui concerne ce qui concerne les contributions qui sont appelées aux entreprises. Il y a un problème d'acceptabilité de l'impôt et donc on ne peut plus aller au-delà, nous semble-t-il. Et il faut chercher des sources d'économie sur le budget de l'État. Et les sources d'économie, elles vont se retrouver sur une réforme profonde de l'État. Aujourd'hui, les budgets sont reconduits quasi systématiquement avec un taux d'inflation. Il faut revoir les dépenses qui sont faites dans les ministères. On a un certain nombre d'agences, des agences Théodule, qui ne sont pas vérifiées. Donc, il y a des économies à faire et l'acceptabilité de ce qui est demandé aux Français pour soutenir cette dette, elle le sera si tout le monde fait des efforts et le premier qui doit faire des efforts, c'est l'État.
Ce serait un drame politique que d'aller vers un nouveau gouvernement s'il y a motion de censure, si elle est votée à la majorité, etc. Ce serait un drame politique.
Alors, ça serait évidemment un mauvais signal politique d'instabilité politique. Et donc, l'instabilité politique n'est pas bonne pour le monde économique, on le sait. Et c'est aussi ce qui inquiète les entreprises et ce qui ont inquiété les entreprises quand il y a eu de la censure du gouvernement Barnier. Après, il faut qu'on trouve des solutions, en fait. Et puis, il faut éviter, ce qui est important, c'est éviter d'affoler les Français. Il y a eu la censure du gouvernement Barnier, tout a continué à fonctionner au 1er janvier. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de paralysie financière des services publics de la France. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des solutions parce que, de toutes les façons, nous n'avons pas l'argent pour boucler l'année. Donc, il va falloir qu'on emprunte, il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on trouve cet argent.
Vous voteriez, vous, la motion de censure ?
On n'a pas décidé. Le groupe, c'est une décision qui est collégiale, c'est une décision qui engage politiquement, c'est une décision qu'il faut qu'elle soit comprise par nos concitoyens. Et donc, on n'a pas encore décidé. Ce qui est sûr, c'est que le budget en l'état, avec les recettes supplémentaires qui sont demandées, les recettes fiscales qui sont demandées, donc ça sera un vote contre du groupe UDR et la motion de censure, on verra.
Parlons de la rentrée du parquet de Digne-les-Bains. Antoine Pesme, le procureur qui a fait sa rentrée, en expliquant qu'aujourd'hui, il y avait 3 déferlements sur 4 qui étaient liés à des violences intrafamiliales. Je vous pose cette question parce que vous êtes intervenu au perchoir sur la proposition de loi pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles. Et vous avez lancé cette phrase. Moi, je crains qu'il y ait une inflation législative. Aujourd'hui, face aux violences, qu'elles soient intrafamiliales ou sexuelles, il n'y a pas besoin de plus de propositions de loi, pas besoin de plus de lois.
Alors, c'est un sujet, évidemment, qui est préoccupant pour le quotidien des Français, ces violences intrafamiliales, et qui a explosé pendant la période Covid, où on était plutôt en milieu fermé, etc. Alors, même si elles se stabilisent dans notre département aujourd'hui, il y a déjà une armada de mesures qui sont à la disposition de la police et de la justice pour contrer ces violences intrafamiliales. Moi, je pense qu'il faut recentrer les moyens sur ce qui est déjà en vigueur, ce qui était proposé dans la loi, dans le projet de loi, ne permettait pas, permettait de renverser en fait la charge de la preuve et de faire peser sur la personne qui est accusée de violence, en l'occurrence c'était pas les violences intrafamiliales mais c'était les violences sexuelles, de faire peser sur les victimes, les personnes qui sont mises en cause, la charge de la preuve. Or on a des fondements importants en droit qui sont la présomption d'innocence, et donc voilà, il faut faire attention quand il y a des constructions législatives à ne pas aller trop loin pour mettre en cause les fondements de notre droit. Et c'est ce que j'ai dit au perchoir de l'Assemblée.
Quel instrument aujourd'hui utiliser, mettre en place justement pour lutter contre ces violences intrafamiliales? On sait que le tribunal a mis en place déjà des colloques sur ce sujet-là. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour y lutter dans les Alpes-de-Haute-Provence?
Alors, il y a des bracelets anti-rapprochement, il y a certaines mesures qui sont possibles. C'est des sujets qui sont très compliqués, très complexes. Il faut certainement mettre en œuvre des procédures d'incarcération, peut-être des courtes peines, etc. Donc, il y a des moyens aujourd'hui qui existent pour éloigner, parce que c'est ça le sujet, hein. Finalement, une femme qui est battue aujourd'hui, elle doit quitter presque son domicile et laisser le mise en cause dans le domicile. Donc, en fait, il faut inverser, il faut prendre en compte la victime. Donc, c'est une meilleure écoute, certainement une meilleure formation aussi de la police et la justice. Voilà. Donc, il y a des choses très pratico-pratiques à mettre en place avant de rajouter et de remettre en cause des principes juridiques qui fondent notre droit.
Le monde agricole reste en suspens aussi au monde politique. Aujourd'hui, il y a eu ces mobilisations ces dernières semaines. L'agriculture doit être au cœur de la réflexion de la politique aujourd'hui, mais sous quelle forme ?
Alors, l'agriculture est au cœur du sujet de la souveraineté alimentaire de la France. Hein. Ils sont aujourd'hui malmenés par des contraintes telles qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier. Et donc, il faut simplement les protéger. Donc, les protéger, c'est leur redonner la liberté de travailler. Et aujourd'hui, on a des normes environnementales ou des normes européennes qui surprotègent l'agriculture, alors qu'on laisse rentrer des produits qui n'ont pas les mêmes normes. Donc en plus, on est sur un système de concurrence déloyale qui va tuer notre souveraineté alimentaire et des filières entières dont on a besoin.
Donc là, il faut faire pression du côté notamment de l'Europe aussi pour revenir sur certains textes.
Absolument. Enfin, quand on voit aujourd'hui le blé ukrainien qui avait des corridors sanitaires, on a craint à un moment donné, au moment de la guerre en Ukraine, qui est l'Ukraine qui est le grenier d'Europe, on a craint à un moment donné de manquer de blé. En réalité, il y a eu des corridors sanitaires où on a fait rentrer des milliers de tonnes de blé qui ont fait effondrer les cours du blé en France et qui ont fait que le coût de revient du blé en France était supérieur au coût du blé ukrainien. Donc on est sur des mécanismes qui sont des mécanismes économiques qui sont très importants et sur lesquels il faut être très vigilant.
J'aimerais vous faire réagir sur cette phrase de François Bayrou qui a beaucoup fait réagir dans l'actualité, parlant de submersion migratoire. Alors, du côté de la majorité gouvernementale, on est revenu sur ces propositions, sur ces propos en les expliquant. Submersion migratoire.
Oui, submersion migratoire, malheureusement, c'est une réalité dans certains territoires en France aujourd'hui. Et donc là, on est sur un exemple d'immobilisme parce que la réalité des territoires, de certains territoires, c'est ça. Et là, en l'occurrence, il l'a raccroché au territoire de Mayotte, à ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Aujourd'hui, c'est les Mahorais, ce sont les Français qui disent on n'en peut plus. Enfin, il faut arrêter cette submersion migratoire qui fait que y a 80 enfants qui sont accueillis dans une classe à Mayotte et que les petits Mahorais n'ont classe que le matin parce que il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez de structures. Quand on est dans ce système de flux et que les lois d'entrée sur le territoire ne sont pas respectées, on pourrait dire l'État ne prévoit pas suffisamment d'écoles. Mais comment voulez-vous qu'on prévoit les moyens nécessaires alors qu'on ne sait même pas combien il y a d'enfants et de populations qui est entrée irrégulièrement en même temps que la population qui est régulière, étrangère, qui est régulière. À Mayotte, par exemple, pour vous prendre un exemple, un tiers sont français, un tiers sont des étrangers en situation régulière et un tiers sont des étrangers en situation irrégulière. Donc ça vous donne l'idée de ce qu'il peut être imagé comme quand on parle de submersion.
Vous êtes une Ubayenne.
Oui.
Et l'Ubaye accueillera le centre de préparation des Jeux Olympiques du côté du SOSE, Super SOSE. Ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, quelle est votre opinion quant à ce sujet ? Opportunité ou non ?
Alors, c'est un sujet évidemment sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé notamment avec Christelle Pascal, qui est une championne ubayenne, et sur lequel elle avait émis l'idée de ce centre d'oxygénation. Donc avant tout ce qui s'est passé politiquement en Ubaye, c'est un dossier que nous avions porté. Et voilà, donc je suis évidemment très heureuse, moi, que ce centre se poursuive. Après la localisation, même si c'est très bien pour le SOSE, je pense qu'elle aurait dû être où elle était prévue au départ, c'est-à-dire au quartier du 11e BCA à Barcelonnette.
Pourquoi ? Pourquoi ça aurait été mieux du côté de Barcelonnette que du côté du SOSE, Super SOSE ? Quelles ont été peut-être les motivations que vous ne comprenez pas aujourd'hui ?
Le localiser à Barcelonnette, parce que tout simplement, ça fait partie de l'étude qui avait été menée par la région à l'époque, tous les équipements sportifs se trouvent à Barcelonnette. Il faut refaire le stade, on a une piscine, on a un golf, on a un tennis, une salle de sport. Donc même en se situant au SOSE, tous les équipements sportifs, donc il était logique que le centre se trouve au quartier Craplé, comme c'était prévu au départ. Voilà. Après, il y a un choix politique qui a été fait de le faire au SOSE. C'est très bien, mais bon, après, il faut voir que ça engage aussi plusieurs millions d'euros d'acquisition, alors que le foncier était disponible à Barcelonnette. Et la région est aujourd'hui en train d'acquérir le foncier au SOSE. alors que le foncier était encore une fois disponible à Barcelonnette. Donc voilà, je pense que maintenant, ça va se faire et je le soutiendrai, bien sûr. Ce sont des infrastructures et c'est une vitrine incroyable pour la vallée. Il faut trouver les financements parce qu'on est, pour l'instant, il n'y a aucun financement. Et le financement est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, la seule certitude, c'est l'acquisition du foncier par la région, puisque ça a été voté en plénière à la région. Après, qui va porter le reste, pour l'instant, c'est le point d'interrogation.
On rappelle que vous avez fait partie de la majorité régionale de Renaud Muselier. Il y a eu tout un passif autour de l'espace Lumière. Aujourd'hui, quels sont vos rapports et avec le président de la région Sud et aussi avec Kylian Bareil, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence? On se souvient que début janvier, il y a eu ces vœux. Vous n'avez pas été invité.
Oui, alors je ne suis invitée ni à la région, ni au département, ni à la communauté de communes, puisqu'hier il y avait les vœux à la communauté de communes. Donc la présidente hier a parlé d'alignement des planètes. Il y a effectivement un alignement des planètes pour écarter les députés qui sont représentants de la nation dans ce département et aux côtés du préfet. Le préfet est désigné par le président de la République et il est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Donc quand il est invité, nous devrions de manière républicaine être invités et ce n'est pas le cas dans ce département. Donc voilà, on est dans un entre-soi qui est dérangeant sur le fonctionnement des collectivités.
On vous fait payer quoi ?
Ben, on me fait payer ma liberté de ton et puis surtout ma liberté politique. Aujourd'hui, j'ai pris des positions politiques qui me semblent protéger les intérêts des Ubayens, puisque à l'époque, j'ai été présidente de la communauté de communes et j'ai considéré que là où on nous emmenait, c'était finalement payer les dettes de la Foudalos qui était en état de cessation de paiement.
Vous parlez de l'espace Lumière.
Voilà, et donc et c'est la réalité aujourd'hui. Enfin, il y a 18 mois, on m'a expliqué qu'il fallait vite que je démissionne parce qu'il fallait lancer l'espace Lumière. Aujourd'hui, l'espace Lumière, il n'est toujours pas financé. Seul le département a ouvert 10 millions d'euros de crédit, il en faut 40. Donc on est très loin du compte. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune date qui est annoncée. La seule réalité financière aujourd'hui, c'est que nous avons fusionné avec le Val d'Alos et qu'il y a un certain nombre de dettes qui n'ont pas encore été mises au grand jour, quoi.
Est-ce que vous sollicitez, vous aussi, de votre côté, en tant que députée, la présidente du département pour avoir des éclairages, des opinions sur tel ou tel sujet ? Est-ce que les discussions se font aussi de votre côté ? Ou est-ce c'est un non-retour de part et d'autre ?
Non, pas du tout. Globalement, j'ai jamais... alors même si les relations sont très compliquées avec Eliane Bareil, que j'estime par ailleurs, indépendamment des conflits politiques... très fort que nous avons, c'est une femme que j'ai connue dans d'autres contextes et que je respecte. Elle a pris le chemin qu'elle a pris et qui n'est pas le mien, mais je le revendique et on ne me fera pas taire, en fait. Je dirai exactement ce qui se passe. Et donc, à chaque fois que j'ai eu à lui parler, en fait, j'ai pris le téléphone. Elle l'a fait de même aussi. Des fois, ça a été un peu vert, on va dire, mais on s'est toujours expliqué. Et donc, voilà, ça fait partie aussi du combat politique et du jeu politique. On a des visions différentes aujourd'hui du territoire. Elle défend, j'espère, de manière très légitime, un projet que moi, j'estime hors d'âge, quoi. Donc, on le voit d'ailleurs avec le temps qu'il fait encore cet hiver. J'espère qu'on aura de bons résultats sur les stations, mais aller miser encore, j'ai entendu hier, tout sur les stations de montagne, même si ce sont des moteurs économiques et qu'il faut participer à cette diversification. En tout cas, moi, je ne le ferai pas du tout comme ni la présidente de la communauté de communes, ni la présidente du département ne l'envisage.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne feriez pas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense qu'il faut préserver l'existant. Aujourd'hui, il faut pas chercher... C'est pas une course à l'échalote. On n'est pas une station de Savoie où on peut investir des millions et des millions d'euros dans des appareils hyper sophistiqués. Je pense que l'argent public va se faire rare, de plus en plus rare, et qu'il faut plutôt l'investir sur des moyens de diversification, sur des domaines skiables qui sont aujourd'hui délimités, sans chercher à les agrandir, bien sûr. J'ai appris récemment qu'il y avait un projet sur Sainte-Anne d'agrandissement du domaine skiable, ce qui est complètement surréaliste pour moi. Et donc voilà, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on maintienne ces remontées mécaniques, qui sont des appareils de mobilité qui permettent d'avoir des espaces sécurisés en montagne, même si c'est pour aller même si c'est pour du contemplatif. Il va y avoir aussi des gens qui vont vouloir accéder à la haute montagne. On l'a vu d'ailleurs au moment du Covid, où il n'y avait plus d'espace sécurisé, il n'y avait plus d'espace de mobilité pour ces flux touristiques dont on sait, avec le réchauffement climatique, qu'ils vont être de plus en plus importants. Et donc, moi, je suis plutôt dans préserver l'existant en le diversifiant plutôt que d'avoir des projets pharaoniques qui sont d'une autre époque.
Merci beaucoup, Sophie Vaginéricourt, d'avoir été avec nous et de nous avoir accueillis ce matin pour le 8h30 d'Alpe 1. Merci.
Merci à vous.